Comment vont les filles?
Et comment vont les filles?
T'as du beurre.
Je mange du flan.
Et comment vont les filles?
Les filles commencent à se disputer. Ça crie beaucoup récemment. Mena veut sans cesse jouer avec sa grande sœur, qui préfère encore jouer toute seule. Tilda perd vite patience. Elle ne veut pas qu'on la dérange, qu'on lui prenne ses jouets. Elle crie
« Mena, mousse weg !»
Faut qu'elle parte. C'est assez cru, mais tout à fait compréhensible. Mena, par contre, ne se laisse plus faire. Elle a appris à se défendre et donne des claques à Tilda quand il faut. Mais malgré tout, elle s'aime beaucoup. Tilda prend soin de sa petite sœur, se penche vers elle pour lui faire un câlin, un bisou. Elles rigolent, elles font des roulades, elles se regardent comme des amoureuses. Ça fait chaud au cœur. Comment vont les filles?
Les filles grandissent, elles s'autonomisent. Lily a pris plusieurs centimètres en quelques jours. Soaz tente de mettre des culottes sans bien savoir tenir ses sphincters encore. Le soir, elle bavarde avant de s'endormir. Quand l'une pleure, l'autre lui apporte son doudou. Quand l'autre joue trop dans son coin, l'autre lui fait bien remarquer.
Tu m'adores, Susan.
Allez, allez.
Je t'adore, Susan.
Des jouets et des cris traversent souvent les pièces. Des têtes et des peluches se cachent sous les couvertures et dans les coins. De nouveaux espaces-temps se dégagent pour tous les membres de la famille.
Tu fais, Susan, tu dis, un petit bonhomme se balade.
C'était Manoëlle.
Comment vont les filles?
Comment les filles?
Et comment vont les filles?
Comment vont les filles?
Journée étrange du début, dont j'avais peu entendu parler. Peut-être parce que sinon une intimité exclusive, le lien, l'asphyxie, le tournis. Divisé en 6 à peu près, ni jour ni nuit, 1 ou 2 heures pour la tétée, le change, le rendormissement, 1 ou 2 heures pour le sommeil, et on recommence. Chère Mira, je te recopie ici les mots de Marie Dariussec au début de son roman autobiographique « Le bébé ». J'ai relu ce livre pour nous aider dans la préparation de notre 4e épisode de « Comment vont les filles ?» sur le postpartum, ou « Das Wochenbett » en allemand. La semaine au lit, tu traduirais comme ça toi aussi? Et toi, comment tu as vécu ces premières heures, jours et semaines après l'accouchement?
Chère Sarah, c'est beau et vrai ce que Marie Dariussec écrit. Ça donne envie de découvrir son livre. Le Wochenbett, ce sont les premières 8 semaines après l'accouchement. D'après ma sage-femme, ça devrait carrément être 8 semaines au lit. Mais c'est assez rare que les mamans le respectent, je crois. Comment d'ailleurs? Avec toutes les choses à apprendre, à organiser, peut-être avec déjà 1 ou 2 enfants en plus du bébé, c'est dur de ne pas s'activer et de donner du repos à son corps. Comment j'ai vécu le Wochenbett? Mes premières semaines en tant que maman étaient intenses, comme chez toute nouvelle mère. Après mes 2 accouchements, je suis rentrée de l'hôpital tout de suite, c'est-à-dire 6 heures après avoir donné la vie. Ça s'appelle un accouchement ambulatoire. La première fois, j'ai pris cette décision car à la clinique, il n'y avait pas de chambre de famille dans laquelle le père aurait pu rester avec moi et le bébé. Vu que j'avais déjà passé le début des contractions toute seule là-bas, j'avais juste envie de vivre les premières heures en tant que parent ensemble avec mon conjoint. Heureusement, le bébé et moi allions parfaitement bien et ma sage-femme pouvait nous rendre visite le jour même. Ce sont les 2 conditions pour pouvoir faire un accouchement ambulatoire. Avec le Covid, ces accouchements-là ont gagné en importance en Allemagne, mais ça reste la minorité. En général, les mamans rentrent avec leur bébé 2 à 4 jours après la naissance, sauf si l'accouchement a eu lieu dans une maison natale, où là aussi on rentre plus vite si tout va bien. De ces premières heures, de ces premiers jours, juste tous les 3 chez nous à la maison, j'en ai gardé tellement un beau souvenir que j'ai pris la même décision après le 2e accouchement. Je me rappelle, j'adorais faire la connaissance de ma fille dans notre grand lit, dans notre chambre lumineuse et calme qui se remplissait avec des bouquets de fleurs jour après jour. Il faisait beau à Berlin à ce moment-là, un janvier ensoleillé avec de la neige. Je regardais par la fenêtre. Les flocons de neige me présentaient une jolie danse douce. Douce aussi la peau de ma fille. J'adorais lui caresser ses joues et ses cheveux noirs, tenir ses mains, l'observer dormir, respirer, bouger comme un robot, en slow motion avec des petits mouvements saccadés. Je me rappelle, j'étais surprise de la tranquillité. J'avais l'impression que le monde s'arrêtait. Il y avait juste elle, moi et mon conjoint. J'étais surprise qu'elle n'ait pas pleuré au début. Est-ce vraiment un bébé? Mais avec le temps, les pleurs sont arrivés, même si ça restait tout à fait gérable.
Pour faire une maison, il faut du bois. Et pour trouver ce bois, il faut un arbre. Pour faire cet arbre, il a fallu qu'on sème. Sème une graine, vivante et belle. Pour faire la graine, il a fallu que pousse. La fleur si douce, la fleur si douce. Il a fallu une fleur pour faire le monde.
Je me rappelle aussi de la douleur que je portais encore en moi. La fatigue des contractions, la fatigue de la grossesse, la grosse plaie qu'était mon corps. Pour la première fois, je me sentais dépendante de mon conjoint. Il devait m'aider à me lever du lit. Je n'en étais pas capable. Après la péridurale, mes jambes m'ont abandonnée. Je ne pouvais marcher que lentement, pas après pas, avec prudence. J'étais choquée de ce sentiment de dépendance physique, mais aussi de l'état de mon corps. Je n'avais pas imaginé mon corps après l'accouchement. Comment puis-je bien vivre l'accouchement? C'était ma question principale pendant la grossesse. Chère Sarah, est-ce que tu as été marquée aussi par l'état de ton corps après avoir donné la vie? Ou est-ce que tu t'es sentie plutôt bien physiquement?
Chère Mira, des fleurs et des fleurs qui arrivent dans ta chambre, chouette! Moi je me souviens de peluches, de crêpes, de clémentines, de tisanes d'allaitement et de quelques plantes à mettre en terre, comme un rhododendron ou un érable pourpre. Tu sais, c'est en lisant ta lettre que j'ai découvert l'existence de l'accouchement ambulatoire. J'ai vu du coup que cela existe aussi en France, mais ce n'est pas très répandu pour l'instant. C'est un compromis intéressant, je trouve, entre un accouchement à la maison et à l'hôpital, que j'aurais peut-être choisi d'ailleurs. Même si j'ai aimé les premiers jours à la maternité après l'accouchement, surtout pour Lily. La maternité où nous étions était super. À Landerneau, très familiale, petite de niveau 1, avec des chambres au rez-de-chaussée et des baies vitrées qui nous permettaient de se promener dans l'herbe. J'ai apprécié me faire dorloter, avoir à m'occuper de rien sauf du bébé. Le personnel était très agréable et nous a donné beaucoup de bons conseils. Bon, on ne mangeait pas bien, le papa dormait mal sur un fauteuil-lit, mais je l'ai vécu comme un voyage, comme la découverte d'un nouvel univers que j'ai adoré, celui de la naissance et de toutes ces professionnels qui l'accompagnent. Peut-être que ce voyage ne s'est jamais arrêté d'ailleurs, et que devenir parent, c'est se mettre en mouvement.
Voyage, voyage, éternellement.
Un moment marquant physiquement de ces tout premiers jours a été ma première douche seule après 9 mois de grossesse. Un gros ventre mou et vide, mais une liberté physique retrouvée. Je me réjouissais d'être à nouveau seule dans mon corps et de ne plus être seule avec le bébé. Pour Soise, l'expérience a été différente. Nous étions dans la grosse maternité de Brest, en unité Koala. C'est une unité où le bébé est un peu plus surveillé. Elle avait des échographies du cœur et sa saturation était prise toutes les 2 heures. Nous sommes restés 5 jours au total, ce qui commençait à faire long, mais cela me rassurait. Les semaines suivantes, son artère pulmonaire ne grandissait pas aussi bien que souhaité. Elle était donc à nouveau surveillée, mais depuis la maison. Et très vite, elle a eu un traitement qu'il fallait lui donner toutes les 6 heures. Pour les deux, je crois que physiquement, je me sentais bien. Bien sûr, j'étais tout de même fatiguée, j'avais très mal au sein, j'avais les contractions utérines. Mon corps avait changé. Mais je me rappelle d'être tonique, d'avoir envie de bouger, de bercer, de danser. C'est mentalement que c'était plus dur pour moi. Je me demandais, Mira, est-ce qu'après ton deuxième accouchement, tu t'es sentie aussi démolie physiquement ou c'était juste le cas après le premier?
Chère Sarah, eh oui, la première douche toute seule, je m'en souviens aussi. Quel sentiment de liberté, même si j'avais du mal à me tenir debout. Après le deuxième accouchement, mon corps a réagi différemment. Je ne peux pas dire que j'allais mieux, c'était même le contraire, je dirais, mais les symptômes m'étaient différents. Après le premier accouchement, ma vulve était tellement gonflée que j'avais du mal à croire qu'un jour elle serait comme avant. Quand j'allais aux toilettes, quand je faisais pipi, ça brûlait. J'avais une petite lésion de la naissance, une éraflure à une lèvre vaginale. Je n'osais pas regarder ma vulve. Je demandais à ma sage-femme d'y jeter un coup d'œil pour moi. Elle a regardé et m'a dit « Ça va, Mira, ça va guérir, ne t'inquiète pas, ça a l'air plutôt bien. » Ouf, une déchirure du périnée, je ne voulais pas imaginer.
Chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Avoir un beau vagin, c'est vraiment très important. Et c'est encore mieux s'il a l'air d'avoir 12 ans. Ce soir, mon amour, je serai ta petite fille. On se pas pédophile sur YouPorn, ça t'émoustille. Allez hop les filles, rendez-vous chez Bricorama. Promo sur les rabots pour se limer la techa. Rassurez-vous les gars, nous on vous demandera rien. Les pénis de 12 ans, ça nous excite moyen.
À ma grande surprise, après le deuxième accouchement, ma vulve était nickel, comme si de rien n'était. J'en étais impressionnée. Mais le lendemain de l'accouchement, tout d'un coup, j'ai eu des douleurs impossibles à la nuque. Quand je voulais me lever du lit, j'avais un mal de tête affreux. Je devais tout de suite me recoucher. Je pouvais bouger ma tête de gauche à droite, mais la bouger vers l'avant, un enfer. Que faire? Je ne savais pas si ces douleurs-là étaient liées à la péridurale. Peut-être quelque chose s'était mal passé. J'ai appelé la clinique, j'ai même parlé avec l'anesthésiste qui m'a donné la péridurale. Il m'a dit « Même si je ne crois pas que ce soit lié à la péridurale, le mieux c'est quand même de venir pour vérifier s'il n'y a pas de cause neurologique. » Aller à l'hôpital? Mais comment? J'ai tellement de mal à me déplacer juste pour aller aux toilettes. Donc, descendre 4 étages? Monter dans un taxi? Inimaginable. Alors c'est l'ambulance, il m'a dit. Avec un nouveau-né d'un jour, attendre des heures à l'hôpital pour être examiné. Allaiter en même temps? Non, clairement non. On reste ici, dans notre lit. C'est là que tu te dis, accoucher à la maison, accoucher à une maison natale ou un accouchement ambulatoire, c'est génial quand tout se passe bien. Mais si ce n'est pas le cas, tu es un peu dans la merde quand même. Alors, j'ai pris des antidouleurs au max, de l'ibuprofène, du paracétamol et les fameux comprimés de caféiné. Puis, des patchs auto-chauffants pour la nuque. Et une visite d'urgence d'un ami kiné, le sauvetage. Il m'a examiné, il m'a tiré de tous les côtés, pas de cause neurologique. J'étais soulagée. Dans quelques jours, ça ira mieux. Je pourrai rejoindre ma grande fille qui se trouvait en vacances de naissance chez mes parents. On pourra fêter Noël tous ensemble. Et oui, mes deux filles, c'est des enfants de neige. La grosse plaie qu'était mon corps postnatal m'a bien marquée. Et ça a pris plusieurs mois avant de me sentir de nouveau bien dans mon corps. La deuxième fois, même un an. Ce qui est sans doute lié aussi à l'allaitement. Chère Sarah, quand je me plains en tant que maman, j'entends souvent la phrase « Mais c'est pour les enfants, c'est pour eux, ça vaut le coup ». Et oui, je suis d'accord, tout ça, les désagréments de la grossesse, les douleurs de l'accouchement, le corps postpartum avec les seins qui tombent, la peau qui relâche, le plancher pelvien qui tient mal, l'incontinence, les hémorroïdes, la diastase rectale, ça valait le coup. J'adore mes enfants et je ne peux pas m'en passer. Pourtant, je trouve qu'en tant que maman, tu le payes quand même, plus cher que le papa en tout cas. Et pour quelqu'un qui aime bien l'égalité, j'ai du mal à l'accepter, à ne pas voir l'injustice. Mais bon, tout ça, ça vaut le coup quand même. N'est-ce pas, Sarah? Comment as-tu vécu les premières semaines en tant que mère?
Mira, je te lis et je te remercie de mettre ces mots. Vulve, plancher pelvien, périnée. Comment ne pas les nommer? Ces organes sont au cœur de nos vies et encore plus de nos vies de maman. En te lisant, je dois aussi repenser à ce documentaire que j'ai vu il y a quelques jours. Une vie comme une autre, de Faustine Cross. C'est loin du postpartum, mais dans une scène, son mari lui demande :
pourquoi t'as la haine comme ça ? Ta vie ne te plaît pas ?
Elle répond que sa vie ne lui plaît pas, que c'est une vie comme une autre, et que c'est dur de se dire ça, qu'elle est tombée dans le piège de la famille, qu'elle ne supporte plus ce petit truc du quotidien. Et surtout, elle a besoin de dire :
va te faire foutre ! Va te faire foutre et fous-moi la paix !
À qui tu as envie de le dire ?
J'ai envie de le dire à la société, j'ai envie de le dire à tous ces clowns au gouvernement, j'ai envie de le dire à mon grand-père, s'il était encore là, je veux dire à mon père, je pense que j'ai envie de dire ça aux hommes.
Alors oui, Mira, je suis d'accord avec toi, ça vaut le coup, et je ne regrette rien. Mais allez vous faire foutre quand même. Pour moi, dans ces premières semaines, j'ai compris qu'être maman, c'est apprendre à se sacrifier. Ce qui est à la fois beau, même agréable, de ne pas penser qu'à soi. Mais parfois, c'est trop, trop, trop. Comme le dit cette maman. Se retenir de faire pipi pour vite changer son bébé. Avoir faim, mais c'est le moment d'allaiter. À peine s'endormir, mais zut, il se met à pleurer. Et ça ne réveille pas le papa. Naturellement, je me mettais entre guillemets. Je me sentais très connectée au bébé. Est-ce si naturel ? Qu'est-ce qui nous relie si fort à nos enfants, Mira ? Je pense au sacre du printemps de Pina Bausch. Tu vois ces femmes sur la terre qui dansent toi aussi, qui se tapent la poitrine. Ah oui, le choc d'un nouveau rythme. Comme mon corps, mon rapport au temps s'était transformé. J'ai eu besoin de beaucoup de discussions et de réajustements avec mes proches. À la fois, je me sentais dans une bulle, un cocon où seul le bébé semblait compter. Et en même temps, j'avais l'impression de devoir tout réinventer. Je me souviens des nuits ambiancées à danser dans le salon avec Lily et le papa, et des nuits éreintantes à me lever toutes les 2 heures pour aller allaiter ou bercer. Et moi, sans sommeil, je me transforme, je perds pied, et parfois je suis monstrueuse. Alors oui, physiquement, j'étais plutôt en forme, grâce au yoga aussi. Mais psychologiquement, je l'étais moins. Mes hormones et humeurs faisaient des hauts et des bas. Pleurs, joie, détresse, euphorie, énervement, fatigue. Cette fatigue-là, ça aussi c'était nouveau. Fatigue qui ne faisait que s'accroître. Ma sœur me répétait tout le temps « quand bébé dort, maman dort ». Ce qui était impossible. Mais je l'entends comme une direction vers laquelle tendre. Celle de ne pas négliger le repos. Même si parfois j'en ai marre de tous ces conseils pour prendre soin de soi. D'un autre côté, cela m'a pris 4 ans pour lire un livre pendant la sieste plutôt que de faire la vaisselle ou travailler.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart.
Une autre chose du postpartum. Je me souviens d'une amie qui m'avait dit que l'amour n'était pas instantané pour elle. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Il faut se découvrir, apprendre à se connaître, à se regarder. Le lien était là tout de suite, mais l'amour, j'ai pris le temps de le rencontrer. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte au début et on ne peut pas tout anticiper. Et peut-être tant mieux. C'est comme ça. Ça fait partie de l'aventure parentale. Et toi, Mira, c'était quoi ton brouhaha des premiers jours, première semaine ?
Chère Sarah, et oui, tu as raison, il y a tant de choses à prendre en compte, à apprendre au début. Et il y a tellement de questions dont tu ne connais pas trop les réponses. Chérie, tu as vérifié la température de la chambre? Il fait bien 18 degrés? Tu penses qu'elle est bien habillée? Pas trop chaud, pas trop froid? Et le caca, il te semble bien? Et le bout du cordon, il est toujours là? Ça devrait bientôt tomber, non? Putain, elle pleure. Tu penses qu'elle a mal? Elle a mal au ventre? Peut-être une tétine? Mais laquelle? Tu peux en acheter? Non, elle ne veut pas. Bon, tu es sûre que tu la prends correctement? Ok, désolée. D'ailleurs, quand est-ce qu'il faut la baigner pour la première fois? Et tu es allée à la poste chercher le colis de ta mère? Et elle boit bien? Franchement, j'ai l'impression que mes seins explosent. Peut-être elle ne boit pas assez? Si, elle grandit bien là, elle prend du poids. Hier, elle pesait combien? Et tu as déjà envoyé les papiers pour le Elterngeld?
C'est les sous pour les parents.
Et pour le Kindergeld?
C'est les sous pour les enfants.
Et pour l'assurance maladie? Et c'est quand le rendez-vous chez le pédiatre? Tu as appelé? Et le tire-lait, il est propre? Tellement de questions. Parlons du tire-lait, l'allaitement, Sarah. Tu l'as vécu comment, toi?
Chère Mira, toutes ces questions, c'est vrai ça? Quelle nouvelle charge mentale qui arrive tout d'un coup? Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à l'allaitement, c'est « aïe ». La première image, c'est le sourire du bébé qui s'endort rassasié contre moi. J'ai allaité 6 mois pour les deux filles. J'en avais envie, mon lait le permettait et elles ont vite compris comment téter. Mais ça en souffert. J'ai eu les tétons abîmés, j'ai eu des fissures, des croûtes, des seins gonflés, une mastite même une fois. Mes bras et mon dos aussi étaient endoloris. Je trouve que ce sont les 2-3 premiers mois les plus difficiles. Il faut trouver le bon rythme, là où les positions qui nous convenaient à toutes les deux, et attendre que les tétons s'endurcissent. Et puis, allaiter en public, ce n'est pas du tout évident. En plus, moi, après chaque tétée, je mettais une crème, puis je recouvrais le bout de mes seins avec du film plastique. Alors je devais me promener avec tout mon petit attirail. À la maison, j'avais plusieurs zones d'allaitement. C'est ma sage-femme qui m'avait conseillé cela. C'était un bout de lit ou de canapé avec des coussins, des trucs à grignoter et une gourde. Mais souvent, je devais demander au papa de m'apporter un truc que j'avais oublié ou déplacé. Et puis, quand on allaite, le temps s'arrête. On ne peut rien faire d'autre. Cool et relou. Alors, faut se détendre et regarder son bébé. Mais ce n'est pas toujours facile à faire. Par contre, quand j'y arrivais, c'était génial. Un pur moment de bonheur pour moi. Mais qui est ce petit bruit qu'on entend derrière la porte?
C'est pas t'aider.
On donne beaucoup de son corps. Et puis, il faut boire et bien s'alimenter pour avoir du lait et du bon lait. Et on donne de son temps, de son énergie, de ses anticorps, bien sûr. Voilà, c'est prenant.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. Qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé.
Pour Lily, la fin de l'allaitement a été très facile. Un jour, elle ne voulait plus boire. Je pense que ma production de lait baissait et elle aimait manger du solide. Cet été avait toujours été rapide, quelques gorgées, un petit regard, et voilà. Pour Soise, la fin a été plus difficile. Déjà, l'opération du cœur à ses 3 mois nous avait un peu mis à l'épreuve de la séparation. Mais une fois remise, elle a vite repris le sein, et elle adorait. Ce n'était pas que pour manger, comme avec Lily, c'était un vrai moment de câlin, de réconfort. Vers ces 6 mois, j'ai repris le travail, et je m'étais engagée pour aider sur un festival de performance loin de la maison pendant presque 3 semaines. J'ai fait des allers-retours, mais la dernière semaine, je devais rester sur place et le sevrage a été obligatoire. Ça a été vraiment douloureux et on a mis beaucoup de temps à s'en remettre. J'ai culpabilisé et puis je sentais que ma décision n'avait pas été juste dans nos rythmes et nos besoins. On en reparlera, non? Le travail, la maternité, la bonne distance. Mais avant, raconte-moi tes allaitements. Je me souviens qu'à la fin, tu ne fonctionnais qu'à un sein, non?
Chère Sarah, oui, c'est vrai, au bout d'un moment, mon sein gauche a gentiment quitté le terrain. Chaque fois, c'était vers le 3e ou 4e mois. Mais même avec un seul sein, l'allaitement a bien fonctionné. Pourtant, surprise, de l'allaitement non plus, je n'étais pas trop fan. C'est surtout mes énormes seins qui m'ont gâché l'expérience. Elles étaient au moins deux fois plus grands qu'avant, surtout la première fois. La deuxième, ça allait mieux. Ça dépend beaucoup du bébé et de sa manière de boire. Mais j'ai allaité deux fois. Je l'ai fait parce que je pouvais le faire. Il y a quand même des femmes qui ne peuvent pas allaiter et il ne faut pas l'oublier. Je l'ai fait parce que j'étais curieuse de l'expérience et parce que ça faisait partie de l'univers bébé pour moi. Je l'ai fait pour mes enfants, bien sûr, pour leur anticorps. Je le fais car c'est pratique. Tu as tout le temps ton lait avec toi, une chose de moins à penser. En plus, ça ne coûte rien. Et je l'ai fait car la première fois, tout s'est vraiment bien passé. C'était quelque chose de facile pour moi, même si le début était un défi. Et oui, ça a fait mal au début. Quelque chose qui m'a bien aidé contre les fissures, des coupelles d'allaitement en argent. Franchement, ça coûte la peau des fesses, mais c'est magique. Arrêter l'allaitement était facile aussi. Après avoir commencé la purée à 6 mois, Tilda a refusé le sein assez vite. Avec Mina, c'était différent. Elle aurait bien aimé continuer, mais 9 mois était la limite pour sa grande sœur, qui réclamait plus de temps pour elle. Heureusement, Mina a bien accepté la fin et je n'avais pas de regrets comme toi. Au contraire, je savourais ma nouvelle liberté tout de suite. J'ai vite senti une vraie différence physique. J'en étais bien contente. Allaiter me prenait beaucoup d'énergie. Chère Sarah, une raison pour laquelle je suis partagée par rapport à l'allaitement, c'est aussi que j'ai senti une énorme pression sur ce sujet. En Allemagne, l'allaitement est sacré. Je connais beaucoup de femmes qui se sont mises une pression de folie pour allaiter leur bébé et qui se sentent mal à cause d'avoir arrêté. C'est un sujet très sensible. J'ai l'impression qu'en France, avec la reprise du travail qui se fait en général après 4 mois, l'arrêt de l'allaitement est plus accepté car le retour au travail le justifie. Il y a plutôt un deuil personnel, comme toi tu le décris. Mais en Allemagne, la plupart des femmes s'occupent du bébé pendant une bonne année, donc l'argument du travail ne fonctionne pas. Le fait que l'allaitement en Allemagne est tellement mis en avant m'a inspirée à une petite chanson. Cher Sarah, bist du bereit für das deutsche Muttermilchlied? Est-ce que tu es prête pour la chanson allemande sur le lait maternel? La voilà! Das Beste für Ihr Baby.
La meilleure chose pour votre bébé.
Muttermilch.
Das Beste für Babys Nase.
La meilleure chose pour le nez de votre bébé.
Muttermilch.
Das Beste für Babys Augen.
La meilleure chose pour les yeux de votre bébé.
Muttermilch.
Das Beste für Babys Haut.
La meilleure chose pour la peau de votre bébé.
Muttermilch.
Das Beste für Babys Bad.
La meilleure chose du bain pour votre bébé.
Muttermilch.
Das Beste für Ihr Baby.
La meilleure chose pour votre bébé.
Muttermilch.
Le lait maternel.
Es lebe die Muttermilch. Vive le lait maternel. Made in Germany. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Buttermilchlied. À ne pas confondre avec la chanson allemande sur le lait de beurre.
Buttermilch, Buttermilch, schlabberdabberdabdabdabdab. Buttermilch, Buttermilch, schlabberdabberdabdabdab.
Vous avez écouté le 4e épisode de Comment vont les filles. Le prochain épisode est consacré au travail. On parle du congé maternité et parental en France et en Allemagne, des différents systèmes de garde et on aborde aussi la question de la compatibilité du travail et de la parentalité. Si vous avez des commentaires, si vous voulez partager vos avis, vos sentiments, n'hésitez pas à nous écrire à commentvontlesfilles@gmail.com.
As-tu bien entendu?
Je mange des flancs.
Et comment vont les filles?
Comment vont les filles?